Durant quelques heures, les musiciens, les danseurs et les spectateurs ont vibré au même rythme.
Branche-toi sur l'art et la culture d'ici. Écoute local. Écoute Chiz 94.3.
Ce n'est pas le doute qui rend fou, c'est la certitude. Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots. Son de cloche, tous les jeudis matins de 9h à 11h, sur les ondes de Cheese 94.3 avec Augustin Becci.
Question de savoir, l'émission des cycles supérieurs de l'Université Laval, présentée par l'Association des étudiants et étudiantes de Laval inscrits aux études supérieures, donc l'ALI. Mon nom est Marie-Ève Duchesne, je suis attachée aux communications. Aujourd'hui, l'émission portera sur la campagne Le Respect, rien de moins, avec mes invités que je laisse se présenter.
Bonjour, oui, mon nom est Christine Delarosville, je suis coordonnatrice d'opérations au Centre de prévention d'intervention en matière de harcèlement. On coordonne la campagne Le Respect, rien de moins, avec plusieurs partenaires. C'est une campagne qui est institutionnelle et l'Allié est un fort partenaire depuis le tout début. C'est une campagne qui est là pour faire la prévention du harcèlement psychologique, qui fait aussi la promotion d'une culture de respect sur le campus. Et on fait aussi la promotion de différents services pour les personnes qui vivent de l'intimidation, harcèlement psychologique et qui veulent connaître un peu plus comment faire de la sensibilisation sur le respect. Cette année, en fait, on a un thème spécifique à chaque année et cette année, le thème, c'est « Ensemble, au-delà de la tolérance ». On invite les gens à se questionner sur leurs propres pratiques pour avoir des pratiques plus bienveillantes, au-delà de la tolérance, donc de faciliter des relations interpersonnelles qui sont empreintes de douceur, de bienveillance et de respect.
Bonsoir à tout le monde. Moi, c'est Franco Eloge Ayoa. Je suis le secrétaire aux droits étudiants de l'Allié. Et donc, vous l'aurez compris, c'est une campagne, en fait, qui nous tient à cœur au niveau de l'Allié. Et donc, nous participons activement, en fait, à cette campagne. Et comme l'a dit ici bien Christine, la coordonnatrice d'opérations, en fait, du CPIMH, l'Allié, c'est un partenaire, en fait, stratégique pour, en fait, le CPIMH. Donc, nous sommes en plein pied dans cette campagne avec, bien sûr, le CPIMH pour nos membres et pour notre communauté universitaire. Merci beaucoup.
Bonjour, mon nom est Janie Perron. Je suis étudiante à la maîtrise en communication publique avec mémoire et mon mémoire porte sur les normes de genre. Ma thèse, pour sa part, va porter plus particulièrement sur les mouvements anti-diète. Merci.
Bonjour, moi c'est Laure. En fait, je suis étudiante à la maîtrise en communication publique et j'étudie, en fait, le gender trolling. Dans le fond, l'impact que le gender trolling a et le sens que les femmes en donnent.
Et je crois que ça peut nous mettre dans le vif du sujet. Qu'est-ce que la campagne Le Respect, rien de moins et quel est le thème abordé cette année?
Donc, oui, comme je disais, la campagne Le Respect, rien de moins existe depuis 2017. On a fait cette campagne-là en collaboration avec la CADE, l'Allié au tout début, avec le syndicat Le STEP également. L'idée était de se questionner sur c'est quoi les pratiques, les enjeux sur le campus qui facilitent l'installation du harcèlement psychologique, puis qu'est-ce qui fait que les gens vont être plus gênés de consulter ou de s'affirmer dans une situation qui peut être à risque de harcèlement, d'intimidation. On a élaboré cette campagne-là ensemble selon les besoins de la communauté. Puis les premières années étaient plus sur l'inclusion, l'écoute, le respect, la bonne entente. Puis cette année, le thème, c'est « Ensemble, au-delà de la tolérance ».
Puis ici, ça porte sur quoi en particulier cette année? Si on peut préciser un peu plus le thème de la campagne et aussi de l'émission « Question de savoir » qu'on fait aujourd'hui.
Oui, donc cette année, on a toutes sortes d'activités qui sont plus en ligne, c'est certain, étant donné le confinement. Donc, on a des capsules qui vont nous amener à connaître un peu plus c'est quoi le racisme systémique, comment on fait pour se questionner justement sur ses propres pratiques qui font que la culture de non-respect se perpétue. Donc, on a aussi fait un lancement de cartes virtuelles aujourd'hui, justement, pour les personnes qui veulent donner une douceur à un collègue ou un partenaire d'études pour l'inviter à se parler, à reconnecter parce qu'on s'éloigne, puis parfois les marques d'incivilité reprennent, étant donné qu'on est à cran, on est fatigué, puis la relation humaine se perd parfois. Donc, ces cartes virtuelles-là qui sont disponibles sur le site Internet du CPIMH sont là pour inviter les gens à prendre quelques minutes pour reconnecter. Et donc, tout au long de l'année, c'est des activités faites avec nos partenaires. On a le service des résidences, on a le service de sécurité, on a l'Allier, la CADEL avec nous, la Faculté des études supérieures. Ensemble, on fait toutes sortes d'activités autour justement de régler les conflits, se parler, être respectueux. Et je laisserai aussi Franco peut-être ajouter qu'est-ce qu'on fait ensemble, puis qu'est-ce qu'on touche comme cas.
Oui, merci beaucoup Christine. Je pense qu'il faut dire qu'en fait, c'est une campagne qui est intéressante, comme je le disais tantôt, parce que ça permet de sensibiliser notre communauté universitaire aux différentes formes que peut prendre le harcèlement, à promouvoir des comportements en fait respectueux et exemples du harcèlement. Et comme vous le savez, en fait, le thème de cette année, c'est « Ensemble au-delà de la tolérance », comme pour nous dire en fait, de s'accepter en fait, l'un et l'autre sur notre communauté universitaire. Et donc, on agit dans le sens en fait, de sensibiliser en fait, globalement en fait, la communauté universitaire sur des comportements très respectueux, sur le civisme nécessaire qu'il faut. Le civisme, en fait, c'est une performance sociale. Et donc, du coup, en fait, tout ce qui pourrait permettre en fait, un contexte, une discussion en fait, franche, une acceptation en fait, de l'un et de l'autre, c'est tout ça en fait, qui englobe en fait, cette campagne en fait, de cette année. Le respect, rien de moins.
Puis ben, je rajouterais qu'on a un nouveau partenaire cette année, c'est Madame Netoffer de l'équipe EDI aux ressources humaines. On a toujours eu les ressources humaines qui étaient avec nous dans les initiatives de la campagne, mais cette année particulièrement, on a les bons conseils de Madame Netoffer pour justement orienter les activités vers l'inclusion, la diversité, l'équité.
Puis, ça serait quoi la pertinence du sujet? Parce qu'on parle d'apparence corporelle, d'un peu de ce que ça a comme impact dans les relations. Qu'est-ce que ça a comme pertinence pour nous, à l'Allier, et de quelle façon on participe à la campagne Le respect, rien de moins, Franco?
Oui, je pense que ça a une pertinence très importante en fait, pour nous, à l'Allier, en ce sens que en fait, ça permet en fait, à nos membres d'être sensibilisés en fait, sur les comportements en fait, les plus respectueux en fait, à l'université, parce qu'il ne faut pas simplement en fait, sensibiliser nos membres sur les infractions en fait, relatives aux études, il faut aussi les sensibiliser sur les infractions relatives au bon ordre. Et donc, du coup, en fait, c'est vraiment une campagne, en fait, qui nous tient à cœur au niveau de l'Allier, à tel point, en fait, sur notre site de l'Allier, on a mis, en fait, les différentes informations, en fait, relatives à cette campagne pour permettre vraiment à nos membres de savoir que, en fait, dans notre communauté universitaire, il faut arriver, en fait, à s'accepter et il faut arriver, en fait, à maîtriser, en fait, les règles de bonne conduite, de civisme pour que nous puissions, en fait, vivre très sain. Et comme vous le savez aussi, au niveau de l'Allier, on a décidé aujourd'hui de faire cette émission de quatrième de savoir déçu pour que nos membres puissent écouter et savoir que cette campagne en fait, est très importante pour nous au niveau de l'Allier. Donc, la pertinence n'est plus à démontrer, elle est capitale. Et chaque année, en fait, je pense qu'au niveau de l'Allier, on va essayer en fait, d'être partenaire stratégique du CPIMH pour pousser chaque campagne qui nous tient à cœur et qui permet vraiment à nos membres de savoir comment se comporter sur le campus universitaire. Et donc, la pertinence, c'est totalement en fait, importante, n'est plus à démontrer au niveau de l'année. Merci beaucoup, Marie.
Donc, du côté du comité, comment le thème de l'année, Christine, est apparu? Comment vous êtes arrivée à ce thème-là?
Oui, donc les gens autour du comité voyaient qu'il y a des belles initiatives pour faciliter l'inclusion, l'équité, la diversité, le respect sur le campus, mais parfois, on se questionne pas nécessairement sur ses propres comportements, puis c'est pour ça qu'on a le thème ensemble au-delà de la tolérance pour pas simplement se questionner sur est-ce qu'on inclut ou y aller théoriquement sur ces concepts-là, mais y aller aussi sur un questionnement sur ses propres pratiques, puis faciliter l'inclusion de tout le monde, le respect, la bienveillance envers tous et toutes. Et le sujet du jour de l'émission était aussi pour se questionner là-dessus. Est-ce que l'apparence physique des gens qui nous entourent influe sur la capacité d'entrer en relation? Est-ce que il y a certaines personnes sur le campus qui ont de la difficulté de trouver des coéquipiers, d'entrer dans des équipes de recherche, d'avancer dans leurs projets d'études en raison de particularités physiques? On voulait faire une petite lumière sur ce sujet-là, puis voir si c'était quelque chose qui existait comme difficulté.
On va faire une courte pause musicale à question de savoir et on vous revient avec mes invités pour un sujet qui est très important, c'est-à-dire la campagne, le respect, rien de moins. Donc, on s'en va en musique et on revient.
Quand le chaud se fait mort, tout ça pour une façade, une image qui ferait jaser fort. Quand tout est au plus fort, quand l'usine fait plus assez d'or, inventer dans l'espoir.
De savoir sur les ondes de chez 94. On continue de parler de la campagne Le respect rien moins. Nous avons aussi avec nous deux étudiantes qui travaillent sur le sujet du body positivity et du body acceptance. C'est deux mouvements qui existent présentement et qu'on entend quand même beaucoup parler. Quels sont ces deux mouvements puis quelle est leur origine respective?
En fait, donc moi, je vais vous parler un peu du body positivity qui est un mouvement en fait qui focus en fait sur l'acceptation de tous les corps, peu importe le poids, la forme, la couleur de peau, le genre, les habiletés physiques, puis tout ça en défiant enfin les standards de beauté. C'est un mouvement qui a été un peu amené par la mannequin et féministe Tess Holliday, qui a fondé en fait le F Your Beauty Standard, qui est dans le fond, qui est une comme une troisième vague du soutien au mouvement de body positive. Cette Mannequin-là, après avoir fondé ce mouvement-là, qui, elle a été signée chez Milk Managen, qui est une taille 26, qui, dans le fond, la mannequin est une taille 26, et il n'y avait jamais eu de taille au-delà de la taille 20, ce qui a fait un grand changement au niveau de... du body positivity. Puis Instagram a été utilisé comme des plateformes publicitaires là, pour le mouvement depuis. Puis on peut voir maintenant depuis 2018 où est-ce qu'il y a eu un grand enclin pour ce mouvement-là qui est le hashtag body positive, body positivity, qui est devenu de plus en plus populaire. Puis ce qui, dans le fond, le but, c'est vraiment de briser les normes que ça inclut les femmes ou les hommes dans ce mouvement-là.
Je vais poursuivre maintenant avec le body acceptance. Comme Marie-Ève le disait dans sa question, c'est aussi appelé le body neutrality. Et ça le dit, là, ça vise plutôt la neutralité envers le corps, parce que le body positivity veut célébrer tout le corps d'une personne, notamment les parties du corps qui peuvent être associées à des défauts, parfois même à de la laideur. Par exemple, on peut penser à la cellulite, au bourrelet, à l'acné, etc. Donc, dans le body positivity, on veut célébrer ces marques-là sur le corps, tandis que dans le body neutrality, on vise plutôt la neutralité. C'est un mouvement qui a émergé à la suite du body positivity parce que les femmes sentaient beaucoup de pression à aimer leur corps chaque jour avec leurs défauts, à même avoir confiance en elles chaque jour, ce qui ajoutait aux nombreuses pressions auxquelles les femmes sont déjà exposées. On peut penser, par exemple, à leur charge mentale. Donc, ce mouvement-là leur a permis de se mettre moins de pression sur elles-mêmes. Et parallèlement, il y a aussi le fat acceptance. On n'en a pas encore parlé, là, mais ça vise, en fait, à normaliser les corps gros. Et même, souvent, les femmes, c'est plus particulièrement les femmes dans ce type de mouvement-là, il y en a qui vont vouloir neutraliser le terme gros pour que ça devienne un descriptif, au même titre que, par exemple, être grand ou être petit. On ne veut pas qu'il y ait de connotation négative au mot gros.
Dans vos questions de recherche, est-ce que vous avez remarqué que ça concernait plus les femmes ou que ça pouvait aussi concerner les hommes dans ces mouvements-là?
Personnellement, mes recherches se situent dans une perspective féministe, donc je me concentre vraiment sur l'expérience des femmes. Mais c'est sûr, là, on ne peut pas ignorer qu'il y a des normes de genre masculines. Par contre, c'est souvent plus associé, par exemple, à la musculature. Justement, les normes de genre masculines diffèrent de celles féminines. Donc, la minceur et les normes de genre féminines, ben, pour moi, c'est vraiment, je l'associe aux femmes dans ma recherche. Je ne sais pas c'est quoi le cas pour Laure, là.
Et je dirais en fait que c'est la même chose, là. Je me penche principalement du côté des femmes, mais c'est certain qu'il ne faut pas ignorer en fait que c'est une problématique à laquelle les hommes font face dans la vie de tous les jours. C'est certain que c'est une question. C'est un sujet qui serait très intéressant à aller étudier davantage avec la masculinité toxique.
Oui, c'est ça. Puis, tu sais, il y a vraiment une émergence là, des études sur les hommes de toute façon déjà, et aussi une émergence de fat studies, donc des études sur les personnes vivant dans un corps gros. Donc, on voit que de plus en plus, on s'intéresse à d'autres personnes finalement que les femmes.
C'est intéressant de voir que la recherche va un peu plus loin là-dedans. Puis pour un peu parler de ça justement, quels sont les impacts de l'exigence des apparences corporelles dans le contexte universitaire ou dans la vie en général? Puis par après, si on peut, si vous avez des exemples de votre côté ou que vous avez vécu quelque chose dans le même genre, et est-ce que vous avez trouvé que ça a apporté des limites aux relations que vous avez avec les autres?
Ben, je peux commencer, vu que je viens de parler des fat studies, ce que je vais dire va être en lien avec ça. Par exemple, dans la recherche, on voit que les personnes qui répondent pas au nombre de genres, donc les nombres, par exemple, par rapport à la grosseur, vont souvent être associées à des descriptifs négatifs, comme la lâcheté, la stupidité, ce qui peut les empêcher des fois d'avoir accès même à des emplois que les personnes minces ont plus facilement accès. Puis il faut penser aussi que la vie de tous les jours est plus faite pour les personnes qui ont un corps qui répond au nombre de genres ou du moins qui est plus situé dans la moyenne comme notre société l'entend. Par exemple, les chaises à l'école sont faites pour des personnes généralement plus minces, les banquettes au restaurant, etc. Personnellement, c'est pas vraiment quelque chose qui s'applique à moi parce que je réponds quand même généralement bien au nombre de genres, mais c'est certain que ça peut venir créer des frictions quand, par exemple, nos proches qui sont moins éduqués sur le sujet vont faire des commentaires à l'égard de personnes qui répondent pas au nombre de genres. Ça peut être difficile de savoir comment réagir, puis quoi dire aussi, parce que c'est pas tout le monde qui souhaite être éduqué sur un sujet, ni changer ses valeurs ou ses opinions là, sur ce sujet-là.
Yeah, en fait, par rapport au s'il y a des effets sur nos relations et tout ça, ben j'aimerais ça rappeler qu'en septembre 2021, donc il y a vraiment pas longtemps, il y a une étude qui a été sortie sur l'impact d'Instagram pour en lien avec l'image de soi et par le fait même la santé mentale, qui disait en fait qu'Instagram avait des effets néfastes pour principalement les adolescentes. Donc c'est certain qu'il y a un effet là sur les relations. Moi, c'est exactement en fait mon sujet là que j'étudie dans ma recherche de maîtrise. J'étudie justement le gender trolling, qui est dans le fond une persécution misogyne qui est fait en ligne, qui consiste en du harcèlement basé sur le genre de la personne, donc principalement féminin, par le biais d'un langage cruel, agressif, dont les messages de haine à caractère de harcèlement sexuel, et etc. Donc, évidemment, la raison pour laquelle je m'intéressais à Instagram, c'est que on a toute la portion visuelle, donc de l'image de soi. Et ce qui m'intéresse, c'est en fait la perception des femmes quand elles reçoivent des messages de ce genre. Comment est-ce que ça les affecte dans leur quotidien par la suite? Parce que j'imagine qu'effectivement, il y a des impacts il y a des répercussions dans la vie des gens. J'aimerais ça parler un peu dans le fond du côté universitaire, qui selon moi, tout ce qui est le ce qui va un peu à l'encontre des tu sais, mettons le mouvement de fatphobie, toutes ces affaires là ce qui arrive, c'est que en fait, à l'université, sur Instagram, on vend une vie qui est idéalistique. Et ce qui arrive, c'est que les gens vont avoir comme idéologie que quand ils vont aller à l'université ou peu importe, c'est comme ça que ça va être. Et les gens vont se comparer énormément. Moi, je parle plus, mettons, au niveau, on fait des stories où est-ce qu'on va, on voit une fille, on va voir une fille qui va se publier qui, en disant la session va être difficile, ils vont mettre un filtre Instagram où ils vont tout être jolis. Et par la suite, les personnes qui vont regarder ça, ils vont se dire, bon, ben, écoute, moi, c'est pas du tout ma situation. Quand je prends un selfie, j'ai les yeux tout rouges parce que je viens de pleurer. Donc, ça vend vraiment une vie réalistique. Puis, par la suite, et c'est certain que ça a des effets sur les relations que les gens vont avoir avec les autres, parce qu'ils vont se comparer inévitablement. Ouais, comment toi, ça va ta session? Des choses comme ça. Puis, ça va aller au-delà de juste la santé mentale en se disant, OK, ben moi, j'ai pas le cute outfit pour aller à l'école. Est-ce que les gens vont me juger? Tout ça. Fait qu'il y a tout ça qui est englobé. Mais j'aimerais ça aussi aller d'un autre côté qui est plus les relations intimes. Je pense que Instagram a surtout un grand jeu sur l'impact des relations intimes, parce que au niveau sexuel, c'est sûr que l'image corporelle est très présente. Donc, on s'attend à ce qu'on soit super beau tout le temps. Puis là, qu'on arrive avec quelqu'un en intimité, ben on n'est pas tout le temps comme ça. Puis ça crée des malaises. Les gens vont avoir tendance à faire de la dysmorphie, excusez-moi, en disant, OK, ben là, je suis pas parfaite et tout ça. Et je pense que c'est un grand jeu dans les relations sexuelles. Donc, quand on va avoir des actes sexuels, on va se comparer en se disant, OK, ben ça, je suis pas dans un angle qui est parfait, on voit mes bourrelets, si je peux dire ça comme ça. Et là, à ce moment-là, les personnes se sentent très mal à l'aise, ils ont pas nécessairement envie d'avoir des relations intimes parce qu'ils se sentent pas bien dans leur corps. Puis je pense que le mouvement body positive, ce qui est intéressant, c'est qu'il va au-delà de juste le corps, l'acceptation du corps en tant que tel, mais l'acceptation du corps dans la sexualité. Moi, c'est principalement ça qui m'intéresse, donc c'est certain que je m'informe plus à ce niveau-là, mais c'est ça, c'est certain que ça a un grand effet. Et moi, étant une personne qui a toujours eu de la misère avec mon physique, qui a toujours de la misère à me trouver belle, tu sais, oh, je suis trop grosse, des choses comme ça, ben je crois que le mouvement de body positive a eu un grand effet sur moi en me disant que je suis pas tout seul à avoir ces problèmes-là, ben avoir ces enjeux-là personnels, où est-ce que j'ai ces malaises-là par rapport à mon propre corps.
Ben moi j'ai peut-être une question. Janie, tu l'as abordé rapidement là. Tu disais que les gens qui ne rentrent pas dans les cadres qu'on s'attend des genres, mais aussi de, tu sais, mettons, un adulte professionnel doit s'habiller de telle et telle façon, là. Ils vont se faire attitrer des étiquettes, des stéréotypes. Est-ce que ça a un impact sur la capacité d'avoir un emploi, la capacité de se trouver un loyer, ces choses-là? J'aimerais t'entendre par rapport à ça.
En fait, mes opinions là-dessus, ça se forme plutôt sur les expériences des personnes qui sont comme ça, là, parce que je suis plusieurs personnes sur les médias sociaux qui ne répondent pas nécessairement aux normes de genre et qui partagent leur expérience. Je pense que c'est vraiment comme ça qu'on apprend, parce que, selon moi, en recherche, la théorie est presque aussi importante que l'expérience, hein. Mettons, en tant que personne blanche, c'est difficile de parler pour les personnes racisées, c'est pour ça que c'est important d'encourager l'émergence là, de recherches faites par des personnes qui vivent dans ces expériences-là. Mais si je pense, par exemple, à une femme que j'avais vue qui racontait en fait son expérience d'être allée en entrevue, d'avoir acheté du beau linge pour répondre justement à ce qu'on attendait dans un milieu professionnel, ben parce que son corps était pas nécessairement ce qui répond au nombre de genres, elle a pas eu l'emploi alors qu'elle avait toutes les compétences requises, puis qu'il y avait aucune raison, dans le fond, pour laquelle ils l'ont pas prise. Ils ont pas été capables de justifier pourquoi elle a pas été choisie. Mais en fait, la personne qui l'interviewait essayait de faire comprendre que finalement, ben, avec son corps, ben, ça allait pas fonctionner, que probablement qu'elle allait pas pouvoir, c'est ça, avoir des bonnes relations avec les collègues. Donc voilà, il y a plusieurs croyances, comme je disais, plutôt qui sont fausses, des étiquettes qui sont faites sur les personnes. Et là, je parle de fatphobie, là, un peu comme Laure l'a dit tantôt, mais il peut y avoir plein d'autres choses, comme je disais plutôt, n'importe quel défaut là apparent qu'on veut célébrer finalement dans le body positivity. Ben même si on en parle beaucoup dans les médias sociaux puis en société, ça reste que c'est encore difficilement acceptable par les personnes. Ça reste que les normes sont encore bien présentes, là. Donc, c'est pour ça que c'est important d'encourager l'émergence de recherches sur ces sujets-là.
C'est ce qui met fin à Question de savoir pour aujourd'hui. Surveillez nos pages Facebook et Instagram et vos courriels institutionnels. Bientôt, nous ouvrirons les postes pour le comité exécutif de l'Allier. Si jamais vous avez des questions concernant les postes, c'est le temps de consulter les exécutants en poste présent. Aussi, les retraites de rédaction continuent les lundis, vendredis matin et les samedis à toutes les deux semaines. Si vous souhaitez vous impliquer à l'Allier dans ses conseils, dans ses comités, conseils et commissions, il est encore possible de soumettre votre candidature jusqu'au 9 février prochain. On espère que vous avez aimé l'émission d'aujourd'hui. Si vous souhaitez en entendre d'autres, il est possible de les réécouter sur notre site internet. Bonne fin de journée et bonne écoute de Chiz 94.3.
Des nouveautés faites au Québec, ici, on en a des tonnes de copies. Écoute locale, écoute Chiz 94.3. We should be friends.
écoutez Chiz 94.3 FM à Québec.
Ceci s'adresse à tous les amateurs de punk rock, de hardcore et de ska. Depuis 2004, Punk Détente vous diffuse le meilleur de la musique d'hier à aujourd'hui. Au menu, des entrevues avec nos bands de la scène locale, les nouvelles punk rock, la liste des concerts à venir, mais surtout, vos demandes spéciales. Le tout livré directement dans vos oreilles par une animatrice complètement passionnée. Punk Détente, les mardis de 18h30 à 20h sur les ondes de Chiz 94.3.
De la réveille à Saint-Charles, boisé sur le slalom, musique zag.
Si ça nous tue, pourquoi on recommence?